Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Nous quittons le Brésil et le sport dans cette partie, mais nous restons dans l'univers du voyage. Voyage des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés économiques qui sillonnent les routes du monde. Notre invité vient de lancer un projet de radio qui leur est entièrement consacré, Radio Passager. Voyage enfin avec Francis Pisani qui, dans une vingtaine de minutes, nous emmène à Hyderabad en Inde pour découvrir un étrange immeuble vert.
Quand tu pars là-bas, tu peux faire du métier là-bas, ou bien chanter foot, ou bien tu fais mécanique, tu les rissoudir, ou bien tu étudies. C'est là, je voulais aller en Europe, Inch'Allah, un jour, ça ira, je vais rentrer.
Ya es el tercer salto en apenas 48 horas. Esta misma noche, otros 50 immigrants han intentado acceder a Melilla.
Nous sommes des hommes. Dieu veille sur nous. Nous savons qu'un jour, tout ira mieux. Pour faire plaisir à ma mère. Ça, c'est une promesse que je l'ai faite.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Descreuze.
Et vous.
Bonjour Léonard Vincent.
Bonjour Ziad.
C'est toi qui porte ce projet de radio passager ?
C'est moi qui porte ça, j'ai imaginé ça dans ma petite tête un jour au Maroc, après avoir voyagé à Melilla et autour dans cette enclave espagnole.
Voilà, ouais, enclave espagnole très connue parce que beaucoup de voyageurs, beaucoup de migrants passent par ce chemin pour venir en Europe, par ces terres qui sont collées au territoire marocain mais qui appartiennent à l'Espagne.
Voilà, et ces migrants, ces jeunes garçons qui sont là-bas, des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, m'ont frappé parce qu'ils m'ont demandé que je leur ramène des livres parce qu'ils s'ennuient. Et ils m'ont expliqué qu'au-delà du froid, parce qu'il faisait froid, au-delà de la faim, parce qu'ils avaient faim, ils s'ennuyaient considérablement. Ils avaient l'impression d'être coupés du monde et ils souffraient beaucoup de ça. Donc ils voulaient des livres en français. Ils étaient avides et puis je me suis dit, bah oui, c'est vrai, ils ont l'âge d'aller à la fac, hein, ces gamins. Ils ont 19, 20 ans. Ils ont rien à faire. Ils sont traqués par la police. Ils vivent dans des conditions d'indigence terribles. Et bon, il y a des ONG qui leur apportent des couvertures dans les montagnes, il y a des ONG qui leur donnent à manger, il y a aussi d'autres ONG qui s'occupent de leurs droits, de leurs papiers, mais personne ne s'occupe vraiment de leur esprit, et ils sont dans un état de détresse, alors non seulement physique, mais aussi psychique. Et donc, cette radio répond à ce besoin.
Comment tu souhaites répondre à ce besoin d'entendre des histoires, peut-être, ce besoin de communiquer, ce besoin de parler, d'écouter, etc. Comment tu souhaites répondre avec ce projet? C'est très rare qu'on parle de projet dans l'atelier des médias, mais là il se trouve que c'est un projet radio, donc ça nous intéresse, et puis c'est un projet qui a un angle très particulier. C'est rare de dire on veut faire une radio pour ces personnes-là, etc. Donc comment tu comptes faire?
Je me suis rendu compte que s'il y a une chose qui ne lâche pas ces migrants sur les routes, c'est leur téléphone portable. Et ils ont tous un vieux truc en plastique et qu'ils utilisent parce qu'ils appellent leur famille et qu'ils communiquent entre eux comme ça, avec des cartes à gratter, enfin le téléphone portable en Afrique, je t'apprends rien.
Donc où il n'y a pas d'abonnement, où on achète des unités au fur et à mesure de nos besoins, et évidemment c'est un outil qui est essentiel, quelle que soit notre situation, quel que soit l'endroit où on vit.
C'est ça, et puis ils changent de pays, donc ils changent de puce, ils changent de téléphone, ils se donnent leur puce, leur carte SIM quand ils changent de pays. Enfin vraiment c'est un outil que tout le monde a, même les types en guenille au fin fond de Oujda à la frontière algérienne, ils ont un téléphone ou ils partagent un téléphone avec un autre. Donc ça c'est pour moi ce qui les relie au monde, ce qui les relie entre eux. Et je vois que ces types-là, même au fin fond du désert, ils s'échangent des fichiers de musique, parce que pour se distraire, ils ont Shakira et puis ils ont d'autres trucs comme ça.
On avait consacré une émission à ce phénomène grâce à Arnaud Contreras.
Absolument, ouais. Et donc on va non seulement leur fournir Shakira, mais on voudrait, nous, avec Radio Passager, leur fournir, comme tu dis, des histoires racontées, des cours, des choses qui leur permettent de se relier au monde, de se relier entre eux, de se parler entre eux à travers les frontières, les destins, et puis qui leur mettent un petit peu de lumière dans leur esprit, un peu de lumière dans cette sombre aventure qu'ils traversent.
Et donc, comment tu vas faire pour produire cela? Donc là, c'est l'intention, tu veux produire des contenus à destination de ces personnes,
oui.
Ces migrants, ces jeunes migrants, dont le profil, c'est plutôt des jeunes d'Afrique subsaharienne, plutôt des garçons en général, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Plutôt francophones pour ceux que tu as pu croiser, mais il y a aussi beaucoup d'anglophones.
Quelques anglophones, des gambiens, des ghanéens, mais qui sont, ils sont assez organisés différemment. Hein, mais les grosses communautés au Maroc, en Algérie, au Niger, c'est beaucoup de francophones. Et moi, une anecdote marrante, c'est que j'ai fait un reportage à Rabat, au Maroc, là où j'habite, sur une équipe de foot d'anciens Guinéens, enfin d'anciens de l'équipe nationale de Guinée, et qui se retrouve là-bas à Rabat et qui cherche à se faire embaucher dans des clubs marocains, sauf qu'ils peuvent pas, donc ils se retrouvent dans la mouise. Et donc ils s'affrontent avec des Ivoiriens qui sont eux aussi dans la même situation. C'est des très bons footballeurs, ils sont sur un terrain improvisé. Et ben sur ce terrain, figure-toi qu'il y a une règle, c'est qu'on parle français. Parce que comme ça, tout le monde se comprend, il n'y en a pas un qui parle une langue et puis un autre une autre, il n'y a pas de truc. Voilà,
on comme parle ça, on ne donne pas le sentiment qu'on est en train de parler des autres. Donc le français, c'est la langue que tout le monde comprend.
Donc c'est un français très créatif, réinventé, remalaxé, avec plein d'argot, mais il est très intéressant. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est une langue qui est importante, qui fédère ces gens. Donc voilà, les programmes en français, ça leur permet d'accéder à un niveau de culture, malgré l'indigence absolue. C'est, comme je répète, c'est des gamins qui ont l'âge d'être à l'université. Et donc, ils ont la cervelle ouverte à tous les vents, et ils veulent savoir connaître. Quand moi, je passe du temps dans les bidonvilles à Rabat avec eux, sur les routes des reportages, je passe beaucoup de temps, pas seulement à les enregistrer, mais aussi à discuter avec eux. Et ils me posent des questions, alors sur RFI, sur toi, sur Juan Gomez, sur les journalistes français, sur la politique française, l'histoire de France et l'Afrique. Même ils me posent des questions sur la Syrie, comment ça se passe, mais pourquoi Bachar el-Assad, il est si méchant, etc. Ils veulent comprendre, ils veulent savoir, ils sont en âge. Donc là, ouais, c'est ça, on va faire des petits programmes qui leur sont destinés. Alors ça va être par exemple des cours de langue. Quand ils se retrouvent au Maroc, c'est un dialecte de l'arabe, le marocain, la darija, qui est assez complexe. Et on va leur proposer au moins des rudiments pour qu'ils puissent dire bonjour, bienvenue, merci, s'il vous plaît madame, au revoir monsieur.
Donc des programmes utiles déjà, voilà, donc pour leur quotidien.
Des trucs utiles. J'aimerais aussi pouvoir faire des reportages sur des gens qui ont besoin de main d'œuvre, des types qui font des ramassages de prunes, par exemple, que je suis allé voir au fin fond du Maroc, et qui disaient mais moi j'aime bien ces jeunes parce qu'ils ils sont heureux de travailler, je les paye bien. Enfin, c'est des communautés qui sont prêtes à les accueillir. Or eux, ils sont coincés dans les villes. Ils savent pas que à 50 kilomètres, ils pourraient aller gagner un petit peu d'argent avec un type plutôt sympa qui leur offre une maison, etc. Donc voilà, il y a plein de choses à faire pour les aider concrètement. Et puis aussi, il y a toute une partie de divertissement et d'élévation un peu de la conscience. Par exemple, il y en a pas mal qui écrivent des lettres et qui racontent leur histoire. Moi, je voudrais qu'ils nous racontent leur histoire. Alors, soit avec leur voix, si on peut, soit avec des comédiens professionnels français. Hein, ici, il y a l'ensemble artistique du Théâtre de la Ville qui voudrait faire ça, des grands comédiens français, qui seraient prêts à lire les péripéties de tous ces gens qui sont sur les routes et puis qui le mettent un petit peu en son, quoi, en voix. Bon, il y a plein de choses à imaginer comme ça. Bon, il y a du reportage de l'émission, et puis on peut laisser une messagerie vocale où ils pourraient laisser des messages à la destination des uns des autres. Mon cousin est en Algérie, moi je suis au Maroc, je lui ai dit tout va bien, je suis là, parce que c'est difficile de téléphoner, de donner des nouvelles, des fois ça prend des semaines. Un truc qui leur appartienne, un outil, il faut que cette antenne, c'est-à-dire, enfin c'est pas vraiment une antenne, mais ces programmes leur appartiennent, qu'ils se les approprient, et qu'on les aide, qu'on les accompagne sur la fabrication de leur propre radio, leur destination. De quoi vous avez besoin, on va le faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, on va vous aider à le dire.
Alors tu parles au conditionnel, tu parles au futur, parce que c'est un projet qui a déjà pris forme en ligne, et qui a déjà aussi sa chaîne de sons sur SoundCloud. Donc on va écouter quelques contributions, quelques jingles qui ont été faits par des personnes.
Alors ça, je vais te raconter, c'est très simple. L'idée que, d'ailleurs, je cherche de l'argent pour commencer à produire.
On va en parler. Hein.
Voilà. L'idée, c'est que les gens, ils donnent pas simplement de l'argent parce que ça soulage leur bonne conscience, mais aussi parce qu'ils vont participer à l'antenne. Et là, en l'occurrence, je propose que les gens fabriquent des jingles avec leur voix. Puisque quand on va donner 5 euros, par exemple, eh ben, on pourra faire son jingle. Et là, en l'occurrence, j'ai fait le tour de ma famille. Mon beau-frère, ma sœur, ma petite nièce, ma mère. Et puis, on a fait des jingles pour montrer qu'avec la voix de n'importe qui, on peut faire quelque chose de sympa.
Radio Passager.
Je voulais aller en Europe, Inch'Allah. Un jour, ça ira, je vais rentrer.
On est là pour une certaine temps.
Bonjour.
Ce sont des journalistes professionnels qui fabriquent ces programmes en Europe et en Afrique. Mais de leur côté, les adhérents de l'association Radio Passager peuvent aussi acheter du temps sur cette antenne. Pour une somme raisonnable, ils achètent une minute, deux minutes, 5 ou 15 minutes par exemple, au cours desquelles ils peuvent dire ce qu'ils veulent, passer de la musique ou lire un texte pour ceux qui sont loin de chez eux, ou interviewer qui ils veulent. Et pourquoi pas, par exemple, un parent qui, lui aussi, des années plus tôt, a pris la route de la migration.
Radio Passager, la voix des migrants.
C'est comme ça que ça fonctionne, Radio Passager. C'est une radio libre d'un nouveau genre. Une radio libre pour les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile. C'est une radio à la demande, faite de bouts de ficelle et de bonne volonté pour ceux qui n'ont rien dans les poches et surtout pour ceux qui n'ont rien à faire de leur longue journée à attendre et à voyager. I am a passenger.
Léonard Vincent, on vient d'entendre donc les jingles de ce que sera cette radio passager. Tu t'adresses à des personnes qui depuis, donc c'est un profil, le migrant qui quitte l'Afrique subsaharienne pour rejoindre l'Europe, une Europe fantasmée, une Europe idéalisée, une Europe aussi qui ramène de l'argent avec à des jeunes qui souvent n'ont pas d'emploi, n'ont pas de perspective dans leur pays. Qu'est-ce que tu voudrais que ça change ou que ça apporte cette radio aux migrants ou à la situation des migrants?
Je voudrais qu'une fois qu'ils ont entendu un programme, ils soient tout simplement un peu plus cultivés qu'avant. C'est tout. Moi, je considère que la culture, c'est fondamental dans la construction de l'être humain. Enfin, c'est une banalité de dire ça, mais enfin, ça va mieux en le disant, quand même. Et la culture, c'est important pour se renforcer, pour se grandir.
Mais il y a déjà toutes sortes de productions, celles de Radio France, celles de RFI, celles qui sont libres, etc., que tu pourrais rendre disponibles ou diffuser auprès de ces communautés.
Oui.
Pourquoi produire vos propres contenus? Pourquoi leur donner la parole? Qu'est-ce que tu souhaites apporter à cette situation?
Leur permettre donc de se cultiver, mais aussi de créer. Ces gens sont en âge et en capacité de créer des choses, de parler, de structurer leur pensée, de la mettre en mots et dans la belle langue française qu'on utilise tous. Donc voilà, cette capacité-là. Et puis, s'adresser particulièrement à quelqu'un, c'est pas exactement comme lui donner accès à quelque chose auquel tout le monde a accès. Ça, c'est très bien. Ils peuvent effectivement... Alors bon, il n'y a pas au Maroc et en Algérie, on n'entend pas RFI, sauf en grandes ondes ou sur Internet. Mais sur Internet, c'est compliqué, ça coûte cher, les connexions sont pas très bonnes. Donc bref, il n'y a pas RFI. D'ailleurs, ils le regrettent beaucoup. Hein. Ils disent tout ça, on n'a pas RFI, donc on est coupé du monde. Mais donc, il n'y a pas non plus un média qui s'adresse directement à eux, qui parle de leur problématique à eux, qui parle de des questions de droit, de liberté, de violence, des choses à éviter, voilà, qui soit une voix et un média pour eux et par eux, quoi, qui soit quelque chose qui leur appartienne à eux. C'est un peu comme si je te disais, voilà, il y a un grand cornet de glace sur la place de la Concorde, tout le monde peut aller y manger un petit peu, dire ouais, c'est super, mais j'aimerais bien avoir mon cornet de glace à moi. C'est un peu ça, quoi. C'est leur donner quelque chose et qui soit un média. Alors ça sert à rien, comme ça, quand on le dit, comme la culture, ça sert à rien, mais c'est indispensable pour devenir un homme libre.
Est-ce que ça peut aussi être une manière de dissuader les personnes de choisir ce chemin plein de dangers, ou au contraire, de changer l'image de ces jeunes qui sont pleins de vie, pleins de talent, pleins d'envie, et qui pourraient apporter plein de choses au pays où ils souhaitent s'établir?
C'est un peu les deux, si tu veux, et puis c'est encore autre chose aussi, parce que ils vivent dans l'obscurité, dans une confusion pour la plupart. C'est-à-dire que ils ont une vision de l'Europe, comme tu disais tout à l'heure, qui est très fantasmée parfois, puis parfois qui est beaucoup plus pragmatique. Ils savent exactement ce qu'ils vont trouver. Et puis ils ont une vision aussi du village, de l'origine, qui est aussi fantasmée, puis aussi parfois très pragmatique. Mais tout ça est baigné dans une grande confusion. Et quand on parle de questions migratoires, que ce soit en Afrique du Nord ou en Europe, tu connais le débat. C'est-à-dire qu'on a des experts, on a des hommes politiques, on a des grandes tendances, ceux qui vivent l'expérience...
On a surtout beaucoup de mythes et beaucoup de fantasmes.
Voilà, et ceux qui vivent cette expérience-là, ils ont pas... c'est pas structuré, on sait pas ce qu'ils disent. Alors, il y en a qui ont des opinions qui sont parties, puis qui le regrettent, qui voudraient rentrer, mais ils savent pas si au village ils seront bien accueillis. Et il y en a qui veulent absolument à tout prix passer, parce qu'ils ont plus rien derrière eux. Et donc, voilà, c'est des cas très particuliers. Il faut mettre juste un peu de rationalité, un peu de lumière dans ce qui est très très confus et très très obscur. C'est les aider à faire des choix libres, d'hommes libres. Et il n'y a que la culture, l'accompagnement, la bienveillance et la langue, une langue commune qui permet de faire ça.
Alors, tu parles de la langue, le français. Moi, pour avoir été un petit peu aussi au Maroc, il y a presque 10 ans maintenant, faire des reportages sur les jeunes migrants, et d'ailleurs ça m'a beaucoup marqué aussi, je comprends que tu aies envie de continuer à travailler sur ça. J'avais été frappé aussi par le fait que beaucoup de jeunes parlaient pas français. Est-ce que tu comptes t'adresser à ces jeunes-là, à ces personnes-là aussi?
Oui, alors ils parlent pas français souvent aussi parce que bon, ils le comprennent et ils osent pas le parler, ils le parlent mal. Mais ça, c'est pas grave, hein, parce que on est là pour apprendre et on va parler. On va pas inviter un philosophe qui va nous faire un cours d'épistémologie tout de suite. On va peut-être les accompagner sur le chemin de l'épistémologie avant. Donc oui, l'idée, c'est vraiment de créer des groupes, de les fédérer, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va apprendre les programmes, qui va les écouter avec les autres, et puis qui va leur apprendre. Je veux dire, qui va servir. Celui qui comprend mieux va expliquer à celui qui comprend pas. C'est toute l'idée. Enfin, c'est tout l'intérêt du média, c'est que ça rassemble autour d'un point commun et autour de la rationalité et d'un langage et de transmission de choses, alors que ce soit de la musique ou que ce soit de la philosophie, on transmet quelque chose. Donc oui, il y a ça, et puis il y aura des cours de langue, hein, comme je l'ai dit, on apprendra la darija, mais je pense que ce serait intéressant aussi, par exemple, que ceux qui se trouvent au Mali apprennent un petit peu de bambara, que ceux qui se trouvent, enfin voilà, on peut imaginer que les Camerounais qui se retrouvent coincés au Mali, ça leur serait utile de parler un tout petit peu le bambara pour pouvoir se parler ou d'autres langues. Enfin bon, voilà, il faut qu'on essaye de reconstruire avec un petit peu de bienveillance et de lucidité la route pour que tout le long de la route, ça les aide à vivre mieux et à vivre en tout cas dans moins de violence et moins de solitude.
Qu'est-ce que c'est le calendrier de, qu'est-ce que c'est le plan de bataille de ce projet maintenant ?
Alors le plan de bataille, c'est que la campagne de financement pour les 6 premiers mois de la radio, enfin, disons pour le lancement de la radio, le coup de pied aux fesses qui va nous permettre de commencer à produire, a démarré le 2 juin et se clora le 18 juillet sur la plateforme Ulule. Là, l'idée, c'est de rassembler suffisamment d'argent, de bonne volonté et d'adhérents, de gens qui participent à l'aventure pour pouvoir commencer à produire idéalement dès octobre-novembre, si on arrive à réunir le budget qu'il nous faut vers la mi-juillet.
Donc vous avez demandé, ou en gros vous avez besoin de 25 000 euros,
oui, c'est
beaucoup, ça
oui.
C'est beaucoup,
c'est
ça beaucoup. Va servir à quoi cette somme?
Alors ces 25 000 euros, on va acheter du matériel, on va louer un petit studio, on va installer notre petit studio, on va faire un site internet performant qu'on peut consulter de partout, on va pouvoir télécharger librement avec des systèmes de paniers machin, gratuitement ces programmes. Ça va payer les frais et les piges des journalistes dont je parlais tout à l'heure, tous ceux qui vont aller travailler sur le chemin, les partenariats avec les petites radios, les correspondants qui vont travailler pour le contenu, et puis ça va payer un petit salaire pour le coordinateur qui va bosser, je pense, une quinzaine d'heures par jour, voire 17, pour coordonner tout ça, animer, créer des programmes, inviter des gens à venir parler, créer des programmes de musique.
Et ça va permettre aussi de donner accès à ces populations, à ces personnes que vous ciblez, au contenu, en dehors du téléchargement en ligne, parce que...
C'est-à-dire que tout, nous, ce ne sera pas simplement une petite équipe à Paris, aveugle et sourde, hein, ce sera tout le long de la route, des relais qui vont aller chercher les voix, leur faire parler, leur tendre le micro, et puis essayer d'en créer un objet, quelque chose qui soit audible par tous et utile à tous. Donc finalement, 25 000 euros, ça paraît astronomique comme ça, mais c'est pas grand-chose. C'est un gros club de foot hein, avec 2500 personnes qui mettent 10 euros par an. C'est pas énorme, hein, c'est un club de pêche, un truc de chasse. Bon. Donc on peut le faire, c'est un peu extravagant, mais c'est réaliste.
Donc si on veut vous soutenir, c'est sur la plateforme Ulule. Si on veut participer aussi, parce que les personnes qui soutiennent du coup peuvent enregistrer leur propre jingle, enregistrer leurs propres histoires, participer.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je propose, c'est pas simplement qu'on donne de l'argent, c'est qu'on devienne adhérent d'une association, de l'association Radio Passager. On recrute des adhérents, quoi. Et ces adhérents, ils ont des droits. Par exemple, quand on va mettre X euros, on va acheter une minute d'antenne. Tant d'euros, ce sera 5 minutes ou 15 minutes, on veut, on peut même sponsoriser. J'ai une université dont les élèves veulent se cotiser pour que, pendant 3 mois, un programme soit offert par les élèves de telle école. Et ça, c'est une très bonne idée. Et donc là, l'idée, c'est que les gens, par exemple, qui achètent une minute d'antenne, ils en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, soit ils le donnent à Radio Passager, et nous, on en créera des programmes dont je parlais, soit on va les aider à fabriquer une minute d'antenne pour les migrants, pour eux. Moi, ma grand-mère était italienne, elle a traversé la frontière de l'Italie de la France à pied avec sa mère sous l'Italie mussolinienne. Aujourd'hui, elle est décédée, mais j'aurais rêvé de la faire parler pendant 3 minutes et qu'elle me raconte ce qu'elle m'a jamais raconté, c'est-à-dire sa fuite hors du pays, la vie des Italiens quand elle est arrivée dans les années 20, etc. Donc les gens ont le choix de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent écrire un petit texte, lire quelque chose, chanter une chanson en famille, n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. On les aidera à créer un joli programme radiophonique de 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes.
Et tout cela à destination et au sujet des migrants, des nombreux migrants qui souhaitent rejoindre l'Europe, qui souhaitent rejoindre d'autres
oui,
univers,
ou qui sont partis qui parce souhaitent... qu'ils ont fui la violence et qui peuvent plus vivre dans leur pays, quoi. Ceux qui sont sur la route, ceux qui passent.
Merci Léonard Vincent, on trouvera des informations, des liens pour toutes celles et ceux qui veulent vous soutenir, qui veulent en savoir plus sur votre projet Radio Passager sur le site de l'Atelier des Médias ou même directement sur le site radiopassager.com. À bientôt.
Merci Ziane.
L'Atelier des Médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
You're in tune to the international sound.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va ?
Très bien. Et toi ?
Ça va très bien, Francis, merci. Lors de ton semi-quart de tour du monde, je ne sais plus comment il faut dire, consacré à l'innovation dans les villes, Francis, tu as découvert un drôle d'immeuble à Hyderabad, en Inde, un immeuble vert. De quoi il s'agit ?
Écoute, il s'agit d'un immeuble bizarre, mais d'abord, je crois qu'il faut situer le contexte. Hyderabad est la quatrième ville de l'Inde par le nombre d'habitants et elle ressemble à toutes ces villes du Sud qui attirent beaucoup de monde très vite et dans lesquelles on survit au rythme des pétarades des cyclopousses à moteur et de la pollution donc. Pour l'étranger qui débarque, tout effort pour la verdir semble une cause perdue, mais heureusement, tout le monde n'est pas d'accord et c'est ainsi qu'a été construit un immeuble vert pour héberger le siège local de la Confédération des industries indiennes.
Un immeuble, donc, pour une agglomération de près de 9 millions d'habitants, c'est quand même modeste.
C'est modeste, c'est ce que je croyais au départ, car même physiquement, il est isolé au bord de la High Tech City, un quartier en pleine croissance, et il fait figure d'oasis au milieu d'un véritable désert urbain. Pas désert par absence de personnes, mais désert par absence de verdeur. Ceci dit, une partie des toits est couverte de pelouses qui isolent les étages du dessous et réduisent les besoins en air conditionné. Le reste est surmonté de panneaux solaires qui fournissent 20% de l'énergie dont l'immeuble a besoin. Deux grandes tours captent l'air matinal qui est ensuite rafraîchi avec des dispersions d'eau avant d'être réinjecté dans le système. Enfin, les bureaux sont orientés de façon à bénéficier au maximum de la lumière du jour et à réduire la consommation d'électricité. Aucune eau ne sort du building, ça m'a beaucoup frappé. Tous les liquides sont recyclés dans l'entretien du jardin. Il y a des grandes citernes pour recueillir la pluie. Et les plantes ont été choisies pour leur faible consommation en eau. La plupart des matériaux utilisés proviennent de la région. Une bonne partie vient même de produits de recyclage. Et si tu permets, pour terminer cette description, une citation de Amand Muthukrishnan, qui est le conseiller principal du projet. Il m'a déclaré « La construction a deux bénéfices tangibles. Nous consommons 40% d'eau fraîche et 25% d'électricité de moins » que les constructions ordinaires. Et comme tu sais, je m'intéresse aux technologies de l'information. Elles fonctionnent, selon lui, comme le tableau de bord d'une voiture qui nous fournit en temps réel les données permettant de mieux gérer la consommation.
Alors cet immeuble s'appelle le Sorabji Godrej Green Business Center, c'est ça Francis ?
C'est exactement ça.
En quoi il se distingue des autres constructions vertes dont on entend régulièrement parler en France, ailleurs dans le monde ?
Alors, inauguré en 2004, le site s'est inspiré de certaines recommandations du LEED, le Leadership in Energy and Environmental Design, une initiative américaine pour encourager le développement de constructions vertes qui sert de référence dans de nombreux pays. Mais les Indiens ont eu à cœur, comme ils m'ont dit, d'indigéniser le modèle. Ils ont créé LEED India, qui fournit aux propriétaires, aux architectes et aux développeurs du pays les outils dont ils ont besoin pour concevoir, construire et gérer des immeubles verts en tenant compte des conditions locales. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, mais la ventilation transversale naturelle, par exemple, est extrêmement courante dans le pays.
L'initiative a l'air intéressante, Francis, mais comment est-ce qu'elle pourrait contribuer à verdir les villes du sous-continent pour toi ?
Alors, la Confédération des industries indiennes qui a lancé le projet l'a conçu pour promouvoir la construction d'immeubles verts, puis d'usines vertes et ensuite de quartiers et de villes verts en donnant l'exemple. Et quand je lui ai posé la même question, celle de l'impact, Anand, le conseiller que j'ai déjà cité, m'a répondu « Quand on leur parle de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, les Indiens demandent qu'on leur montre comment ça marche. C'est pour ça que nous avons construit cet immeuble, car nous étions convaincus qu'en le voyant fonctionner, d'autres suivraient. De fait, plus de 2400 projets ont été lancés dans le pays en appliquant les mêmes règles. Il s'agit en fait d'une approche par le petit. Les micro-projets peuvent avoir un impact plus positif que les grandes réalisations et nous retrouvons ainsi, dans un tout autre contexte, la notion évoquée la semaine dernière à propos de Curitiba au Brésil, celle d'acupuncture urbaine.
Merci Francis. On peut retrouver cette chronique en version audio sur ton blog de l'Atelier des médias. On peut aussi te lire sur ton propre blog qui s'appelle francispisani.net. On peut enfin te lire sur les sites de La Tribune et de L'Opinion. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Ziad.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 340 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadaoui, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et bientôt arablog.org, notre plateforme en arabe qui sera lancée cet été. Nous avons déjà reçu plus de 700 candidatures. Si vous êtes un mécène, un bailleur, une fondation et que vous souhaitez appuyer l'Atelier des médias, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Ce projet, l'Atelier et ses petits Mondoblog, Arablog, Libiablog et bientôt l'Atelier Radio ont besoin de vous. Merci de votre soutien. Salut à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini? Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.